France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Paris, printemps 1945. Alors que les rescapés des camps de concentration reviennent peu à peu en France, l'État français lance un appel étonnant. Les familles spoliées peuvent faire une demande de restitution de leur piano. Les instruments encombrent en effet le palmarium, les sous-sols du palais de Tokyo et d'autres entrepôts parisiens. Alors quelles histoires nous racontent ces échanges entre l'administration et les familles spoliées qui retrouvent après la guerre leurs appartements vides et vidés? Quelle place ont les instruments de musique dans le travail mémoriel autour de la Shoah? Pour en parler, pour le découvrir, une invitée ce soir, Caroline Piketty. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes archiviste émérite des Archives nationales et votre livre intitulé « Harmonie volée, printemps 1945, le retour des pianos pillés par les nazis » vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir.
C'était un piano noir, droit, les bobèches Louis XV en bronze doré. Ce piano, je l'ai acheté à une pianiste célèbre, mais je ne sais pas s'il y a un numéro. Je n'ai jamais fait attention à cela, je le possédais depuis une cinquantaine d'années. Je me rappelle que sur le couvercle intérieur, il y a un nom, mais un nom alsacien ou allemand. Je ne me rappelle plus du nom. Ayant eu beaucoup de déboires avec la Gestapo et tout ce qui s'ensuit, j'ai perdu le nom de ma mémoire. Ce piano avait un intérieur en chêne et les candélabres étaient montés à l'électricité. Il était très lourd et très fort. C'était une belle pièce au point de vue sonore. Je l'avais fait réparer il y avait une quinzaine d'années pour les touches. Le dehors derrière est recouvert d'une étoffe un peu bordeaux en soie satin. Il doit y avoir même quelques griffes de chat qui seraient faciles à reconnaître. Si vous me donnez l'adresse où je pourrais éventuellement aller le visiter, peut-être le rencontrerai-je ?
Et une lecture signée Bertie Bourdon, qui travaille dans l'équipe de Questions du soir, Caroline Piketty. Pourquoi Madame Bernheim, qui signe cette lettre, tente-t-elle de décrire son piano, jusqu'à même décrire les griffes de chat qui l'ont abîmé? Que cherche-t-elle à travers ce courrier?
Elle cherche à le retrouver, et puis elle l'adore, ce piano. Et très vite, elle comprend que si elle ne donne pas beaucoup de détails, elle risque fort de ne pas être crue par le service des restitutions, la section piano du service des restitutions. Et donc, cette lettre illustre parfaitement toutes les lettres qui sont conservées aux archives nationales, de gens ordinaires comme de gens célèbres, qui vont tenter de retrouver leur instrument.
Elle est très belle cette description parce qu'elle mêle peut-être une dimension quotidienne, un attachement charnel à un objet d'un instrument de musique. Elle laisse entendre aussi peut-être l'histoire de cet objet, sa dimension familiale, l'inscription dans un lieu spécifique. Est-ce que c'est ce qui fait que les pianos sont sans doute des objets à part dans l'histoire de cette restitution?
Oui, je dirais même que cette dame décrit son instrument comme une personne, encore plus. C'est plus fort qu'un objet, c'est une personne. Et elle veut retrouver cette personne, cet objet. Et c'est extrêmement émouvant parce que cette lettre n'est pas du tout exceptionnelle. Il y en a beaucoup de ce genre. Mon livre est truffé de citations. Hein. J'ai très peu inventé, en fait. Et je trouve bouleversant ces descriptions faites par des gens qui ont vécu 5 ans de persécution, qui ont pu, pour certains, revenir et qui s'attachent à retrouver leur instrument de musique en attendant mieux. C'est-à-dire que ces personnes attendent le retour de quelqu'un qui a été arrêté, raflé... assassiné souvent.
Mais tout de même, Caroline Piketty, parmi toutes les spoliations de biens juifs, qu'est-ce qui fait pour vous, j'imagine que c'est un point de vue très personnel, qu'est-ce qui fait que pour vous, les pianos ont une place à part parmi ces objets?
De façon simple, j'ai joué du piano petite fille, pas bien, mais avec énormément de plaisir. Et donc j'ai toujours été attachée au piano, il y a toujours eu un piano à la maison, J'ai eu un professeur de piano qui était une seconde maman. Et quand j'ai découvert aux Archives nationales ces fichiers, ces dossiers sur les pianos, je les ai présentés à beaucoup d'historiens, puisqu'à ce moment-là, je travaillais aux Archives nationales, j'étais pas du tout en mesure d'écrire quoi que ce soit. Et curieusement, ça n'a pas intéressé. C'est un peu un mystère pour moi, parce que c'est quand même une mine d'or, ces fichiers et ces dossiers. Donc je me suis plongée dedans doucement, mais sûrement, enfin doucement. Mais finalement, ben voilà, le livre est publié.
Alors il faut décrire l'ampleur de ces spoliations. Est-ce qu'on a des chiffres qui permettent justement de la mesurer, de les mesurer ?
Oui, on a des chiffres, mais les chiffres sont toujours à prendre avec précaution. On sait qu'à Paris, 40 000 appartements appartenant à des personnes juives ont été totalement pillés de leur contenu. Tout a disparu. Les Allemands ont tout pris, des meubles de valeur, des pianos, jusqu'aux prises électriques, aux jouets des enfants, au linge, aux casseroles, enfin tout. Et 40 000 appartements, c'est beaucoup dans Paris. Et on sait que 8 000 pianos ont été signalés au service des restitutions entre 1945 et 1947. Ce qui fait un pourcentage tout de même assez important, vous voyez. On dit souvent le piano était réservé aux jeunes filles de bonne famille parce que si elles savaient jouer du piano et si elles faisaient un peu de couture, elles allaient trouver un bon mari. C'est assez curieux comme raisonnement. Mais en fait, je vais tout à fait à l'encontre de cette idée-là parce que je trouve des pianos dans tous les milieux sociaux de Paris. De l'avenue des Ternes, au parc Monceau, à la rue des Écouffes ou de la rue des Rosiers, vous voyez, des instruments de qualité, de valeur très très différentes, mais c'est partout un objet unique dans un appartement.
Un objet unique qui valait cher, c'était compliqué justement d'acquérir un piano ou bien dans le fond c'était quelque chose qui avait à ce point de la valeur qu'on pouvait se le transmettre de génération en génération et par conséquent se comprendre que certaines familles plus modestes possédaient aussi un piano.
Il y a tous les cas de figure, hein. Il y a les cadeaux magnifiques qui sont offerts en cadeau de noces, celui de Léon Blum pour son premier mariage avec Lise Bloch, un Bechstein magnifique. Mais il y a aussi des pianos d'occasion qui sont achetés par des familles très modestes qui sont à peine arrivés en France et qui vont souhaiter que leur fille, leur garçon apprennent le piano. Il y a vraiment tous les cas de figure.
Je vous cite, Caroline Piketty, un extrait de votre ouvrage. Vous écrivez « Soucieux d'éviter au peuple allemand les misères et les privations dont il avait souffert durant le premier conflit mondial, les dignitaires nazis avaient non seulement planifié la victoire, mais orchestré la revanche des souffrances passées. Ainsi, les bombardements alliés et les destructions qu'ils avaient provoquées s'étaient trouvés compensés par des approvisionnements réguliers de matériel issu des pillages des maisons juives. » Fin de citation. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut aborder la question des spoliations? C'était pour un usage destiné aux Allemands ou c'était un usage aussi qui était destiné à demeurer en France?
Il y a eu toutes sortes de situations. Les pianos vraiment de grande valeur étaient tout de suite repérés, souvent dès 1940 par les dignitaires nazis et étaient réservés vraiment aux grands de la Wehrmacht ou de la SS, de la Hochschule de Berlin et ainsi de suite.
Et d'ailleurs, vous expliquez que ce sont les grandes familles juives qui sont
spoliées les premières. Les premières, Wanda Landowska, Léon Blum. Bon, il y en a une quantité. Mais c'est vrai que le contenu vraiment des appartements radicalement pillés étaient destinés à remeubler ces foyers allemands qui étaient, de fait, objectivement vrai, qui étaient victimes des bombardements alliés, qui se retrouvaient sans rien chez eux, ou en tout cas avec des tas d'objets cassés, qui avaient besoin de linge, qui avaient besoin de meubles. Et le système nazi était très performant, parce que des trains entiers partaient de la gare du Nord, de la gare de l'Est, à destination des grandes villes allemandes. Et puis après, la répartition se faisait. C'est stupéfiant quand on y pense. Mais c'est vrai.
Pourquoi va-t-on même retrouver des pianos jusque dans des submersibles, jusque dans des sous-marins? Il faut nous l'expliquer. Je vois que c'est une affaire qui vous fait rigoler.
Oui, ça me fait sourire parce que je m'y attendais pas du tout. Quand on démarre un travail comme ça, heureusement, on a plein de surprises. Les Allemands étaient peut-être particulièrement mélomanes, et dans les sous-marins de l'Atlantique, ils avaient besoin de musique, de jouer de la musique, et donc des pianos droits vraiment de petite taille étaient engouffrés dans les sous-marins, ce qui paraît stupéfiant quand on y pense. Mais c'est vrai.
Vous dites les Allemands étaient particulièrement mélomanes. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'ils étaient plus mélomanes que les Français, les Hongrois de la même époque? On parle souvent, pour parler du régime nazi, de dictature chantante. Mais est-ce que là aussi, ce n'est pas un mythe reconstruit par l'avenir?
Il faudrait creuser. Hein, c'est qu'un livre. Hein, il y a des pistes de recherche que l'on pourrait approfondir, c'est évident. Mais je pense quand même que les Allemands aimaient beaucoup la musique et un nombre considérable de compositeurs exceptionnels sont allemands, hein, c'est indéniable. Est-ce qu'ils étaient plus musiciens, plus mélomanes que les Français? Honnêtement, je ne sais pas répondre. Mais en tout cas, ils avaient besoin de musique. Mais les GI, vous ne m'interrogez pas là-dessus, mais les soldats américains qu'on fête aujourd'hui, qu'on commémore en tout cas aujourd'hui, c'est quand même stupéfiant aussi que la maison Steinways & Sons à New York a conçu, dès le début de la guerre, des pianos droits très particuliers, plus robustes, un peu plus condensés, un peu plus petits, dans des caisses en bois totalement étanches pour être largués par avion ou débarqués en bateau sur les côtes normandes. C'est quand même fou. Ça montre bien que le piano réunit dans les bons moments comme dans les moments difficiles.
Je voudrais que vous nous parliez d'un homme, Caroline Piketty. Il s'appelle Alfred Rosenberg. Il est peut-être celui qui a orchestré ces spoliations de piano.
Oui, c'était le grand idéologue du parti nazi. C'est vrai que c'est lui qui a conçu cette entreprise gigantesque de pillage des juifs dans toute l'Europe occupée. Hein. Ce que je dis pour la France, vous le retrouvez en Belgique, vous le retrouvez aux Pays-Bas, vous le retrouvez quasiment dans tous les territoires occupés par le Reich. C'est une entreprise gigantesque que Rosenberg avait conçue dès l'origine et qui a fonctionné à merveille.
Alors je voudrais que l'on avance dans cette émission comme on l'en avance dans votre livre, dans votre texte, c'est-à-dire aussi par histoire, par petites histoires. Et commençons peut-être par Vladimir Jankélévitch. Commençons par l'écouter dans son rapport à la musique.
La musique est un art qui vit dans le temps et qui se rattache au concert, lequel est un événement historique, qui est arrivé une fois, et puis plus jamais. Souvent, on se rappelle une chose merveilleuse qu'on a entendue il y a 20 ans, on se le rappelle à peine, et pour le réentendre, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup chercher. Donc la musique se cache. Elle se cache parce qu'elle est temporelle, et que tout ce qui est temporel vit d'une existence précaire, fragile, clandestine même.
Un extrait d'un documentaire diffusé sur la chaîne parlementaire. Caroline Piketty, qu'est-ce que Jankélévitch vient faire dans cette histoire?
Ben, Jankélévitch habitait Quai aux Fleurs avant la guerre et est retourné Quai aux Fleurs dans l'île de la Cité après la guerre. C'était un philosophe, mais c'était un musicien autant qu'un philosophe. Il avait deux pianos chez lui, c'était absolument naturel. Il faisait venir des amis pour jouer à plusieurs. Et on a des témoignages étonnants de Jankélévitch qui n'a pas son pareil pour décrire les barbaries nazies. À son retour à Paris, ce qui va se réfugier à Toulouse pendant l'occupation, il n'a pas son pareil pour parler de ses barbares et de sa détermination à ne plus jamais jouer de musicien allemand. Ça, c'est clair et net. Alors qu'il adorait Schubert, Schumann. Et il a un rapport... il revient enragé et... Ce qui m'a surpris, parce qu'il y a tout de même beaucoup de choses qui me surprennent et il y a beaucoup de questions que je laisse en suspens, c'est-à-dire qu'il va décrire à son retour à Paris tout son appartement totalement vidé, ses livres, ses partitions, son mobilier, mais il ne va pas citer son piano. Il va y avoir le tabouret de piano, mais pas son piano. Et je pense qu'il avait déjà deux pianos avant-guerre. Et ça, c'est étonnant. Et donc, j'ai des questions qui sont sans réponse. Et j'ai quelquefois imaginé dans ce livre, mais très très peu. Et la plupart du temps, j'ai préféré dire que je ne savais pas pourquoi il n'a pas réclamé son piano. Ce qui m'a frappé, c'est sa hargne. Parce que on l'imagine tout sourire, Yankelevitch, parler de la musique comme de la philosophie, avec vraiment une grande sagesse. Mais en fait, il était enragé.
Un autre homme, Léon Blum, qui lui a mis énormément de temps à demander justement à retrouver son piano. Là, est-ce que aussi vous avez quelques éléments de réponse qui permettent d'expliquer pourquoi Léon Blum a pris ce temps considérable alors qu'il avait demandé la restitution de bien d'autres objets avant cela ?
Oui, ben je pense que Léon Blum, quand il revient de Buchenwald après une odyssée phénoménale, il est âgé. Et il... C'est vrai qu'il se soucie pas de son piano. Je pense que sa dernière épouse n'était pas pianiste, à la différence de la première, et que il avait, j'allais dire, d'autres chats à fouetter. Et c'est seulement quand il apprend que l'un de ses meilleurs amis, Daniel Meyer, qui lui réclamait son piano et qui ne parvenait pas à le retrouver, qu'il s'enquiert du sien, qu'il le retrouve, qu'il l'identifie clairement, avec une honnêteté éloquente. Et donc Léon Blum va à ce moment-là confier son Bechstein à Daniel Meyer.
Une autre lecture de Bertie Bourdon, encore, je lui cède la parole.
C'est un piano droit Erard, numéro 71900, modèle numéro 5, en palissandre ciré, avec un bouton étouffoir sous le clavier, au feutre très usagé. Ce piano n'a aucune valeur marchande. Il n'a que celle d'être une relique, puisque mon père a composé la majeure partie de ses œuvres sur ce piano.
Il n'a aucune valeur marchande et c'est ce que l'on découvre justement en sillonnant votre livre, Caroline Pechetti. C'est peut-être l'attachement incroyablement émotionnel à ces instruments de musique, au piano en général et peut-être dans une dimension familiale et ce temps passé avec ces instruments.
Oui, c'est un attachement émotionnel évident. Mais il faut aussi imaginer, c'est un petit peu difficile, mais que ces personnes spoliées étaient conviées, par exemple, au palmarium du jardin d'acclimatation où étaient entreposés des centaines de pianos. Elles se retrouvaient face à des instruments qui, finalement, se ressemblaient beaucoup les uns les autres. Et ce qui m'a surprise très vite, c'est l'honnêteté de ces personnes. C'est-à-dire que souvent, elles étaient plusieurs devant un même instrument. Et elles ne veulent pas réclamer un instrument dont elles ne sont pas sûres. Et c'est ce que dit Léon Blum, d'ailleurs. Il dit « je pense que c'est le mien ». Et il donne toutes sortes de critères qui montrent que c'est vraiment le sien. Mais très souvent, j'ai ces cas de figure. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que ces personnes étaient vraiment démunies, devaient recommencer à zéro avec vraiment rien. Et on aurait pu imaginer que par cupidité ou je ne sais trop quelle réaction pas vraiment bonne, elles auraient insisté sur tel instrument sans être totalement sûres que c'était le bon piano droit qui n'avait aucune valeur marchande. Eh bien non, il y a une droiture, une honnêteté qui frappe. Hein.
Vous avez évoqué le palmarium, il y a aussi les sous-sols du palais de Tokyo, le quai de la gare. Pourquoi ces trois lieux en particulier ont-ils été choisis pour entreposé ces milliers de pianos. On imagine ces scènes, d'ailleurs, elles doivent être incroyables à lire, à décrire, à découvrir. Mais pourquoi ces trois lieux-là spécifiquement, et qu'ont-ils entraîné justement en matière de restitution ?
Alors, ces trois lieux sont très différents, puis il y en avait d'autres, mais le palais de Tokyo était déjà sous l'occupation, utilisé par les Allemands pour entreposer de gros instruments, parce que les sous-sols étaient vides et faciles d'accès depuis la rue de la Manutention. Ça, c'est évident. Le palmarium n'est utilisé qu'à la Libération. Et là, c'est un lieu désaffecté qui est repris par le service des restitutions, où vont s'entasser dans des allées relativement bien organisées, les pianos droits d'un côté, les crapauds, les pianos de concert, et ainsi de suite.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'une intellectuelle qui parle lui aussi de ses instruments de musique et que l'on écoute. Elle nous permet de comprendre pourquoi le piano comme instrument, j'allais dire, encapsule bien d'autres objets, bien d'autres instruments.
Les derniers témoins disparaissent, donc il y a une urgence. Il faut les interroger, il faut recueillir leurs témoignages. Mais je dirais aussi que c'est le moment où on peut commencer à travailler aujourd'hui sur les biens culturels. Pendant un certain temps, et c'est tellement compréhensible, l'urgence c'était l'humain.
Ouais.
C'était de retrouver les traces humaines, le souvenir des gens disparus, de recueillir les témoignages. Maintenant, il n'y a plus, ou il n'y aura presque plus de témoignages vivants. Donc, ce qui est porteur de l'histoire, ce qui incarne l'histoire et la mémoire, ce sont les biens culturels. Et c'est pour ça que c'est maintenant seulement, je dirais, qu'on peut s'en occuper.
L'historienne Pascal Bernheim, qui avec son association Musique et Spoliation parcourt l'Europe à la recherche des instruments de musique volés par les nazis. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse, Caroline Piketty? Dans le fond, on commence tout juste à s'attacher, à s'occuper, à s'intéresser à ces objets, aux instruments de musique en particulier, aux objets culturels d'une façon plus générale, parce que les victimes directes de la Shoah sont en train de disparaître. Je parle évidemment des derniers.
Oui, on a commencé d'abord par les œuvres d'art, qui sont encore et toujours d'actualité. Et c'est seulement depuis une petite dizaine d'années qu'on s'intéresse aux instruments de musique. Ça, c'est évident. On est passé vraiment de l'étude des personnes persécutées, déportées, assassinées à Auschwitz, à l'étude des objets. Et il me semble que c'est une démarche très intéressante. Et en tout cas, pour moi, c'est une démarche abordable, c'est-à-dire que j'ai un biais par les pianos pour aborder des questions qui sont quand même souvent insoutenables.
C'est un lien, justement, ces pianos, ces objets culturels en général, ce sont des choses, si je puis dire, qui vont permettre de maintenir un lien avec la Shoah, avec ce passé ?
Oui, tout à fait, parce que une personne qui a été arrêtée, raflée, déportée, assassinée et qui ne reviendra pas, je rappelle juste aux auditeurs, sur 75 000 déportés juifs de France, seulement moins de 4 000 reviennent. Donc une personne qui ne revient pas, mais qui a joué sur un instrument, le piano revient dans le salon et quelqu'un reprend des mélodies, se souvient. Le souvenir est tenace et il y a quelque chose qui reste, qui est indéniable et qui est extrêmement précieux.
Qu'avons-nous fait des pianos sans propriétaire, des pianos qui n'ont jamais été réclamés ?
Il y en a eu peu et ils ont été vendus par les domaines en 1947-48. Il y en a eu peu, mais vraiment le service des restitutions a fait un travail colossal de restitution de ces instruments.
Est-ce qu'on observe, j'allais dire, des traits similaires avec d'autres instruments de musique où le piano, par sa taille, par son prix, par ce qu'il représente, parce qu'il est peut-être l'exemple type, l'archétype même de l'instrument de musique, encapsule et embrasse toutes ces histoires ?
Non, le piano, c'est franchement différent. Pascal Bernheim, qui fait un travail remarquable, travaille également sur des violons magnifiques, des violoncelles, des instruments avant. Mais le piano a un sort tout à fait particulier parce qu'il est costaud, il passe vraiment pas inaperçu et il a traversé ces années de persécution entre guillemets, bien mieux que d'autres instruments de musique.
Une dernière histoire, peut-être, pour achever cet entretien. La famille Zibulski, qui était-elle? Et pourquoi l'avez-vous mis, j'allais dire, au centre de ce récit?
Alors, c'est une famille que j'ai un petit peu imaginée par endroits. Dans deux ou trois histoires, je me suis permis des fantaisies, parce que je le sentais comme ça. C'est une famille très très modeste. Tailleur, bijoutier, vraiment des milieux très modestes, et qui a tout de même un piano acheté d'occasion, et une fille, des garçons aussi, mais une fille douée. Et les parents trouvent un bon professeur. La fille réunit le soir ses parents, ses frères et sœurs autour de quelques mélodies, toujours les mêmes. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et le père est arrêté au début de l'année 1942, et il part par le premier convoi de mars 1942. La mère arrive à cacher ses enfants dans le Beaujolais. Elle revient à Paris. Elle s'aperçoit qu'il n'y a plus rien dans l'appartement. Et quand elle revient vraiment avec ses enfants en 1945, elle est l'une des premières à écrire au service des restitutions. Elle dit « Mon mari va revenir ». C'est pour elle une évidence. Et elle va très vite avec sa fille au Palmarium et elle reconnaît le piano. Ça, vraiment, sans doute, sans rien. Et elle attend encore son mari. Et elle va recevoir en 1946 un certificat de disparition. Mais c'est vrai que j'ai imaginé la gamine qui a repris les mélodies qui charmaient toute la famille et qui a su remettre un peu d'entrain, avec beaucoup de guillemets, dans ce foyer.
Merci beaucoup Caroline Piketty. Je rappelle que vous êtes archiviste émérite des Archives nationales et le titre de l'ouvrage que vous faites paraître aux éditions de l'Archipel, Harmonie volée, printemps 1945, le retour des pianos pillés par les nazis. Merci d'être venu ce soir.
Merci beaucoup. Soir.